L'adaptation est faite également. Donc bonjour à tous et puis bonjour aussi à mes amis de la RATP qui se sont dérangés pour me voir. Donc de façon plus concrète, un peu moins conceptuelle, on a été au niveau du métro de Paris, on a été amené à réfléchir à un nouveau système de transport, un système automatique et dans une histoire où finalement on arrive assez souvent à des conflits, on s'est demandé comment on pourrait réussir un jour à passer à ce nouveau système. Alors, j'ai choisi de vous parler de mon expérience professionnelle, donc en tant que petit personnel parfois, mais toujours en essayant de rester malgré tout grand professionnel. Et j'ai eu le plaisir et j'ai été choisi aussi pour pouvoir participer à 3 projets importants au regard de l'automatisation. J'étais responsable qualité sur la ligne 14 et j'ai pu exercer des premières négociations jusqu'à la certification. Et puis, quand Serge Lagrange, qui est le grand homme de cette automatisation, a été nommé directeur d'un nouveau département qui était le département métro, transport et services, eh bien, j'ai pu rejoindre son équipe pour négocier finalement les accords sociaux qui nous ont permis de moderniser le métro. On est actuellement en cours. Et puis, je suis actuellement directeur de la ligne 1, une ligne aussi en cours d'automatisation et qui propose une première mondiale. On l'a annoncé assez vite et assez fort, Christian Blanc, donc en arrivant à la RATP, en trouvant une RATP qu'il devait trouver assez poussiéreuse, et notamment au niveau du métro, a souhaité en fait proposer un projet qui soit de nature à transcender un peu tous ceux qui travaillaient à la RATP et à fédérer sur un projet finalement assez marquant. Donc l'automatisation en soi n'a aucun intérêt. C'est l'un des systèmes de transport existants et ça constitue une réponse. Ça peut constituer une réponse, mais ce n'est pas la seule. Donc, ce qui marque la décision du projet Météor, finalement, c'est la volonté de l'entreprise de passer d'une approche industrielle à une logique de service. Quand on dit approche industrielle, il faut comprendre que pour le conducteur en général, mais aussi pour les ingénieurs, finalement, le voyageur, quelque part, c'est un petit peu le grain de sable qui vient gripper le système de temps en temps. Donc, on change de paradigme à ce moment-là et on met le client, comme ça s'est fait dans beaucoup d'entreprises, au centre de toutes les préoccupations. Et donc, dès le départ, et ça a son importance, Météor est conçu, le projet Météor, donc l'automatisation de la ligne 14, est conçu comme un outil destiné à la qualité de service. Ça n'a jamais été envisagé comme un outil anti-grève. Simplement donner la meilleure qualité de service possible aux voyageurs. On s'aperçoit aussi que le fait que Météor soit une création, c'est-à-dire une ligne qui n'existait pas, eh bien finalement, on n'engage pas directement l'avenir du conducteur. On projette simplement un nouveau système sans sa présence. Et puis, c'est le moment que l'entreprise choisit, en tout cas les hommes qui la composent, pour relancer le dialogue social, et ça va se faire finalement autour de l'organisation. Alors, le relancer, ça peut paraître artificiel, simplement on décide à ce moment-là de faire travailler deux groupes d'experts, deux groupes transversaux, alors l'un sur l'organisation et les métiers, et le deuxième sur le rapprochement entre la maintenance et l'exploitation. Et puis, à partir des grandes orientations données, on va travailler avec 7 groupes de travail, avec les organisations syndicales, pour essayer de trouver la meilleure organisation et pour essayer de définir les métiers du futur, les systèmes de valorisation. Et en fait, on est très content à ce moment-là d'aboutir à un protocole d'accord qui va être signé par 5 syndicats et on est très fiers de pouvoir écrire dans ce protocole d'accord que finalement, on a réussi à avoir 40 réunions, 150 heures de débat, 2 jours de négociation. Et qu'on a réussi à obtenir un compromis qu'on a jugé acceptable, puisque ça a été signé. Alors, quelques options qui, à mon avis, se sont avérées décisives. Le fait d'automatiser, ça ne veut pas dire que, dans les consciences, il faut absolument souhaiter la mort du conducteur. Bien au contraire, je crois qu'une des grandes forces du projet, ça a été d'essayer d'intégrer les conducteurs, et notamment leur proposant 10 places d'agents de maîtrise par an pour pouvoir intégrer le système. Donc, quelque part, dans la conscience des gens, l'automatisation crée des possibilités de promotion pour le conducteur. C'est un élément important. Et puis, le nouveau métier qui lui est proposé résulte bien d'une logique de service et non pas uniquement d'une logique industrielle. C'est-à-dire qu'on lui demande à la fois d'être présent dans les arcanes techniques, dans le poste de commande centralisé, mais également d'aller en ligne au contact du voyageur. Ce qu'on choisit à ce moment-là au niveau de l'organisation, on a un système intégré de transport, donc il nécessite une vision globale, et c'est important. Donc on met en place une alternance d'activités, de façon à ce que tous les opérateurs et l'encadrement aient une vision vraiment très précise de tout ce qui se joue sur ce système. Et on fait en sorte de renforcer les solidarités aussi, puisque on va créer des attachements communs. Là où hier et encore aujourd'hui sur la ligne classique, les agents de station prennent chacun dans leur station, les conducteurs prennent leur rame toutes les deux minutes, donc ils n'ont pas tendance à se rencontrer. On va créer des logiques de roulement à plat pour que les gens puissent travailler ensemble. Et puis, à chaque prise et fin de service, des briefings et des briefings pour parler de ce qui nous préoccupe et des objectifs qu'on doit atteindre durant ces journées. En fait, on a choisi aussi de ne pas imposer aux gens ce nouveau système. Hein, donc, l'appel au volontariat, c'est simplement faire en sorte que les gens qui sont intéressés puissent venir. On reçoit quand même 1000 candidatures hein, pour participer à ce nouveau projet. Sur un département métro qui comptait à peu près 10 000 personnes, c'est extrêmement important. Et ça jouera effectivement dans la volonté des syndicats d'arriver à un accord social. Ensuite, on met quelque chose qui n'existait pas. On avait dans ce service public, comme dans bien d'autres d'ailleurs, des mutations possibles, c'est-à-dire qu'on pouvait changer de lieu de travail, mais sous condition d'ancienneté, hein, d'ancienneté de demande. Donc, là, on va mettre au contraire un système de consentement mutuel quelque part, puisqu'on va sélectionner les candidats, mais en plus, on va leur proposer de rester pour une durée limitée, hein, entre 2 à 6 ans selon les métiers, de façon à ce qu'on ait toujours une dynamique, hein, avec de la créativité, des gens qui arrivent et qui proposent encore d'autres choses, et aussi de façon à ce qu'on puisse se constituer un réseau dormant, quelque part, pour les futurs projets de modernisation de l'entreprise. Hein, en sachant que ceux qui sont passés sur la ligne 14, eh bien, par essence même, sont des pionniers et auront envie avec nous de pouvoir progresser dans le sens de la modernisation. Enfin, on met un système de valorisation qui va être basé sur une logique de résultats. On souhaite donner une meilleure qualité de service aux voyageurs. Eh bien, on gagne plus, quelque part, quand finalement, cette qualité de service a été constatée. Ensuite, après cette belle aventure de la ligne 14, Serge Lagrange est nommé donc, au département métro transport et services. C'est un nouveau département, une création aussi, puisqu'on va séparer le métro en deux, transport d'un côté et espace de l'autre. Et j'ai la chance de rejoindre cette équipe qui va avoir en fait une arrivée dans un contexte délicat, donc contexte délicat qui peut être vecteur effectivement d'opportunités également, puisque il faut savoir qu'en août 2000, en fait, on a un accident important, fondateur sur le métro, puisqu'une rame de métro va se renverser à la station Notre-Dame-de-Lorette. Heureusement, aucun décès parmi les voyageurs, mais une quarantaine de blessés. Et ça nous recentre, on était sur une logique de service, on doit se recentrer très vite sur les fondamentaux du métier, notamment sur la sécurité ferroviaire. On arrive aussi dans un climat social au niveau du département assez dégradé, ce qui nous change de la ligne 14, où tout se passait très bien sur le plan social. Donc on a des conflits locaux répétitifs, hein, et notamment ce qu'on a appelé le conflit des pare-brises, et bien tout simplement, les conducteurs arrivaient à quai de départ et nous disaient « mon pare-brise est sale ». Donc on demandait à un agent d'encadrement d'aller garer la rame de métro et on arrivait sur les lignes 9 et 10 à perdre à peu près 40% de production tous les jours, et alors que l'entreprise avait fait tout ce qu'il fallait pour que les pare-brises soient nettoyés. Donc on était sur la subjectivité totale et sur un blocage du système à terme. 1er février, avec une arrivée au 1er janvier, 1er février, un conflit suivi à 85%, le métro arrêté. Et puis, lorsqu'on veut améliorer la qualité de service, donc renforcer l'offre de transport, ce qui induit quelque part de nouveaux conducteurs, une embauche de conducteurs supplémentaires, eh bien, on arrive à des conflits extrêmement durs avec des pratiques qui sont des opérateurs vont envahir les voies pour empêcher les métros de circuler sur la ligne 11. Et puis sur la ligne 8, on mettra quand même 2 ans pour négocier un changement de tableau de service, pour améliorer l'offre et pour mettre des conducteurs supplémentaires. Donc on va réfléchir à ce qui va permettre à un programme de modernisation ambitieux et à une façon de travailler différemment avec l'ensemble des professionnels qui composent le métro de Paris. Donc on va d'abord définir, on les connaît, mais elles sont évidemment sous-jacentes, mais il est important de les formaliser. On va les partager tous les documents institutionnels, comme les contrats d'objectifs, les protocoles d'accord, se référeront à ces valeurs, et on va les activer. On va les activer sur le terrain à l'aide de plans d'action. Et les valeurs fondamentales, évidemment, en premier, on trouve la sécurité ferroviaire, il faut le redire, il faut le réaffirmer. La continuité de service, qu'on verra sous la forme de régularité, envoyer des trains le plus régulièrement possible en ligne de façon à augmenter la capacité de transport et encore une fois à mieux transporter les voyageurs. Et puis la qualité, la modernisation deviennent deux des leitmotifs qui vont nous permettre de progresser au quotidien sur nos pratiques. La première chose aussi, en arrivant, c'est de se dire, finalement, l'encadrement dans tous ces conflits est souvent bafoué, les initiatives individuelles sont très peu prisées, lorsque ça marche, c'est parfait, mais en cas de problème, on n'a pas réellement de soutien, il faut le dire, à ce moment-là, de l'entreprise, et donc on va travailler à redonner une fierté à l'encadrement en équilibrant les rapports sociaux. Je pense également que redonner une fierté à l'encadrement, c'est redonner une fierté aux opérateurs. Donc, on va essayer de sortir de ce qu'ils faisaient des conflits qui étaient des conflits rémunérateurs. J'arrête de travailler, donc je vais renégocier des avancées sociales. On va essayer d'utiliser l'ensemble de nos ressources, et notamment un petit corps de conducteurs, une quarantaine, qui s'appelle la réserve générale, et qui, elle, n'était jamais sollicitée lors des conflits locaux. Son utilisation, en fait, va nous permettre de rééquilibrer. On a aujourd'hui le droit d'affirmer un mécontentement, mais ça ne nécessite pas pour cela de demander à plus de 500 000 voyageurs par jour de pouvoir arpenter les rues de Paris pour se rendre au lieu où ils souhaitent se rendre. On a aussi travaillé à mieux encadrer le droit de grève, le principe de l'alarme sociale, entre autres, qui est maintenant connu, et puis à développer aussi des leviers managériaux, et notamment pour la première fois une prime de production pour les conducteurs. Plus les conducteurs roulent et plus finalement ils touchent de primes, et puis aussi le renforcement du choix dans les systèmes de promotion. On a tendance à promouvoir les gens qui finalement vont s'inscrire dans les projets de modernisation de l'entreprise. Ensuite, on a cette ambition de proposer un projet qui soit un projet porteur, un projet phare, et ce qui est l'automatisation de la ligne 1. Et pour pouvoir le faire, là, on s'attaque directement, vous le comprenez bien, de façon directe à l'avenir des conducteurs. Pour pouvoir se faire, on se repose sur la légitimité qu'on a pu acquérir lors des négociations sur la ligne 14, lors de tout le travail qui a pu être fait. Et puis, on va aussi s'attacher, je le dis encore une fois, l'automatisation n'est qu'un système, à le banaliser au milieu d'un programme de modernisation ambitieux qui, finalement, va concerner toutes les lignes de métro, mais également toutes les professions et finalement tous les professionnels. Donc, sur nos valeurs mêmes, on part sur le renforcement de la sécurité ferroviaire. On doit renouveler pour la continuité de service des équipements qui tombent en panne, la régularité s'en ressent, donc on va renouveler nos équipements. On va continuer à développer l'offre et puis la modernisation, pour des raisons économiques et donc de performance, va s'articuler autour du planning de renouvellement du matériel roulant, puisque c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui. Enfin, quand on a défini nos valeurs, quand on a réfléchi à notre programme de modernisation, on va s'engager, l'équipe de direction du département va s'engager directement sur le terrain pour contester finalement à nos partenaires sociaux, avec qui on travaille très bien également, le travail de l'opinion, c'est-à-dire qu'on va aller, on va prendre notre bâton de pèlerin et puis on va aller sur le terrain pour expliquer à l'ensemble de nos professionnels ce qu'on souhaite faire, quels sont les enjeux pour l'entreprise, quel est notre programme de modernisation, comment on va y arriver et quel avenir potentiel on leur réserve au sein de ces différents projets. Donc on en est aujourd'hui à la troisième vague, ça représente à peu près 4 500 personnes à chaque fois. c'est des périodes assez denses, puisque vous avez 20 à 25 personnes, et des personnes qui viennent plutôt pour échanger, mais parfois de façon un peu virile, mais qui sont toutefois à l'écoute. Et en général, on arrive à repartir avec un climat plutôt apaisé en fin de séance. Les débuts de séance sont parfois assez difficiles. Enfin, on arrive avec cette façon de faire. Je ne pense pas que ce soit une méthode du tout, mais cette approche, en tout cas, on arrive à un triptyque social majoritaire, c'est-à-dire que quelque part, l'automatisation de la ligne 1, la modernisation de l'ensemble du réseau, et finalement un regard bienveillant sur le déroulement de carrière des conducteurs, et c'est important, va permettre d'avoir un accord social sur tous ces projets majeurs. Enfin, une dernière expérience, c'est celle de la ligne 1 dont je suis le directeur aujourd'hui. Eh bien, après avoir négocié les projets, les protocoles d'accord en transversal au niveau du département, c'est-à-dire avec des gens qui sont mandatés pour pouvoir négocier, eh bien, c'est un retour sur le terrain avec au quotidien, finalement, la nécessité de se confronter à des professionnels, des conducteurs, des gens qui s'occupent de la régulation, des agents de station, et essayer de faire fructifier ces protocoles qui nous permettent de progresser aujourd'hui. Alors, la ligne 1, c'est quand même un projet fédérateur pour l'ensemble des acteurs du transport, dans la mesure où c'est une première mondiale. Il faut savoir qu'on est en train d'automatiser la ligne aujourd'hui, alors qu'elle continue à fonctionner au jour le jour et que la qualité de service n'est pas notablement dégradée. Alors, il y aura toujours quelqu'un qui aura une exception dans la salle, j'en suis sûr, mais globalement, on est à peu près, d'après nos chiffres, on est à peu près sur un fonctionnement correct. Ensuite, c'est un grand défi pour tous les acteurs du transport. Garantir la sécurité ferroviaire, encore une fois, ça devient encore plus difficile quand on doit faire cohabiter des systèmes différents. Système classique au départ, système automatique à la fin, avec une mixité de circulation entre rames classiques et navettes automatiques. Et c'est la période de mixité qui sera vraiment le cœur de cette première mondiale. Première mondiale, ça veut dire que personne ne l'a jamais fait avant, donc ça demande beaucoup de réflexion, de créativité et d'engagement de la part des gens qui travaillent sur la ligne, avec de vrais risques, celui de rendre le projet impopulaire. On sait que quand un projet est impopulaire, c'est beaucoup plus difficile de travailler au quotidien, de préserver la qualité, donc la capacité de transport, et puis aussi de faire en sorte que le projet ne dure pas trop longtemps pour qu'il puisse être supporté. On a fait des vrais choix. L'un de ces vrais choix, c'est de ne pas chercher à tout réinventer, mais bien à s'appuyer sur ce qui existe et qui a bien fonctionné et améliorer à la marge ce qui ne nous satisfait pas. Donc, on part plutôt sur une innovation maîtrisée, au niveau des technologies, l'organisation et des métiers, et également des pratiques managériales. Enfin, quelques options. On a continué à travailler comme on avait pu le faire, mais là, on a travaillé avec des partenaires sociaux qui travaillent au quotidien sur le terrain. Donc, l'approche habituelle, on a eu encore un protocole d'accord avec 6 syndicats signataires cette fois. Et on n'a pas souhaité, nous ne sommes pas dans des systèmes totalitaires, donc la stratégie d'évitement, pour moi, ça consiste à dire les agents qui étaient présents sur la une et qui ne souhaitent pas rester, on va essayer de négocier des conditions préférentielles et acceptables pour que vous puissiez partir le plus tôt possible. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il ne reste que 13% des conducteurs expérimentés sur la ligne. Nous avons donc aujourd'hui 87% de jeunes conducteurs, enfin en tout cas de conducteurs nouvellement qualifiés. Et ça répond à deux objectifs, en fait. Le premier, une meilleure adaptation, puisqu'on n'est pas encore sur ce qu'on a pu appeler tout à l'heure des routines, qui sont évidemment nécessaires pour pouvoir travailler au quotidien, mais qui ne sont pas forcément ce qu'on doit mobiliser quand on est dans le domaine du changement. Et puis, on souhaite aussi qu'à terme, les conducteurs qui auront vécu ce projet se redéploieront harmonieusement, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à négocier leurs conditions de départ, mais on le remettra sur le réseau à l'endroit où on en a besoin. Et on souhaite que, quelque part, ils puissent raconter leur aventure sur la ligne 1 et puis peut-être faire de nouveaux adeptes de ces systèmes. Enfin, on s'applique, et ça a été un des grands enseignements de la ligne 14 aussi, à constituer quelque part des collectifs de travail intermétiers, simplement en fonction des différentes phases. Aujourd'hui, on est sur l'intégration des équipements techniques qui nous sont livrés par des ingénieurs, mais il faut aussi quelque part en gérer pour nous au quotidien les dysfonctionnements. Il faut également en enseigner les usages aux voyageurs. et quelque part valoriser ces équipements qui sont des équipements extrêmement chers. Donc, une porte-palière, par exemple, c'est l'un des premiers équipements. C'est un équipement en fait frontière entre le transport et la station. Et des gens des deux collectifs de travail en fait arrivent à l'aide de procédures à travailler ensemble sur ces nouveaux systèmes. Et en plus, ça donne l'occasion aux agents de station de nouer des contacts avec les voyageurs pour expliquer le fonctionnement et pour valoriser les équipements. Alors, je pense qu'il n'y a réellement pas de méthode, mais simplement quelques éléments de réflexion. Ce n'est pas forcément les meilleurs, mais je pense qu'on arrive à faire, on arrive à automatiser une ligne, hein, en sachant que c'est une option, mais c'est une option qu'on a pu choisir, en jouant sur un capital confiance. Hein, ça se joue dans la durée. Faut faire le pari de l'intelligence. Hein, les gens, enfin, aller sur le terrain, pouvoir discuter, essayer de convaincre, être sur ses convictions, s'engager personnellement, parfois physiquement. Ne pas hésiter à intégrer, c'est-à-dire que ne jamais souhaiter la mort d'un métier, ça n'a pas de sens, hein, mais essayer au contraire d'intégrer, partir des qualités fondamentales du métier, essayer de le transcender pour trouver de nouveaux débouchés. Bien sûr, on bénéficie d'une chose qui est importante aussi, c'est que l'automatisation, ça représente quand même l'excellence dans l'incarnation des valeurs de la conduite et du transport. C'est-à-dire que tout ce qui est proposé, tout ce que propose le système, finalement, eh bien, c'est un niveau de qualité qui est supérieur à ce que peut produire l'homme aujourd'hui. Et c'est peut-être en ça que, sur les mêmes valeurs, les gens arrivent à accepter qu'on puisse le faire. Et puis, il ne faut pas se tromper non plus. Bien sûr, il y a une convergence d'intérêts, hein, aspiration du personnel, attente de la clientèle, et puis un souhait pour le développement de l'entreprise aussi, pour les industriels éventuellement. Mais cette convergence d'intérêts ne peut s'exprimer correctement, enfin, à mon avis, que si les rapports sociaux sont équilibrés. Si on a des rapports qui sont trop déséquilibrés dans un sens ou dans l'autre, on n'arrive pas à pouvoir faire passer ce type de changement et de modernisation. Je vous remercie.